8h17 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Bienvenue à vous et bonjour Anne Hidalgo.
Bonjour.
C'est une étape importante bien sûr en ce jour avec la réouverture des commerces, des lieux de culture, des terrasses sous certaines conditions. Enfin, vous dites, il était temps de rouvrir.
Oui, il était temps de rouvrir parce que tout le monde avait travaillé hein, sur des protocoles, je pense aux lieux culturels. Et puis, on aura aussi l'inauguration de la fameuse fondation hein, cet après-midi, Pinault, qui va être extraordinaire. Et puis, plein de musées qui réouvrent. Donc oui, il était temps. Il faut être prudent parce que même si, par exemple, sur Paris, mais partout en France, le taux d'incidence du virus a beaucoup diminué, il faut quand même être prudent, être dehors. Moi, je suis beaucoup les préconisations hein, de nos médecins. Je pense notamment à Rémi Salomon, qui est président de la commission médicale de la PHP, qui dit ventiler, être dehors. Mais il faudra quand même prendre ses précautions. Mais quelle joie de retrouver la vie. Voilà, c'est
joie,
surtout
oui,
ça.
Vous avez raison. Mais faisabilité, parce que malgré tout, Anne Hidalgo, il y a des professionnels qui ne pourront pas rouvrir faute de rentabilité. Couvre-feu à 21h, jauge de 50% pour les terrasses. Est-ce que c'est trop contraignant pour une ville capitale comme Paris ?
C'est contraignant, mais évidemment qu'il y avait les raisons sanitaires et que la santé, ça ne se négocie pas. Donc, et que tout le monde a fait des efforts et que les restaurateurs et tous les actifs ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais c'est vrai, je pense encore à celles et ceux des restaurateurs qui, parce que leur modèle économique ne leur permettra pas simplement d'ouvrir le midi, attendront sans doute le desserrement, là aussi, du couvre-feu au mois de juin, qui leur permettra de faire aussi un service le soir. De notre côté, on a souhaité accompagner tous ces entrepreneurs à Paris, notamment en faisant encore des exonérations pour toutes ces terrasses et en partant d'un principe de confiance. Ils peuvent investir des lieux, des espaces, ils doivent respecter évidemment un certain nombre de conditions et notamment la question du bruit pour les riverains. Mais j'ai voulu partir, là encore, cette année comme l'année dernière, de ce principe de confiance. Et puis, on verra, on contrôlera et on
s'en tiendra. C'est important, parlons-en, parce que ces terrasses éphémères, quand même, c'est près de 9800 dans la capitale. Elles inquiètent certains élus d'arrondissement qui dénoncent, Anne Hidalgo, une forme d'anarchie. Et ils vous demandent pourquoi ne pas avoir vraiment encadré de telles installations.
D'abord, je pense qu'il faut faire confiance aux gens, aux entrepreneurs. Les terrasses, ce sont des restaurateurs, des patrons de café qui ont quand même énormément souffert. Les Parisiens, la population tout entière a beaucoup souffert aussi de ce confinement. Donc moi, je pars du principe de la confiance. Et ceux qui ne respectent pas les règles du jeu, eh bien, ils seront sanctionnés. Mais
vous imaginez faire la police de ces terrasses aujourd'hui ?
En fait, ce qu'on a fait, puisqu'on est en train de mettre en place la police municipale, depuis déjà plusieurs jours, nos équipes passe voir les restaurateurs. Vous savez, c'était très très beau d'ailleurs dans Paris ces derniers jours parce que tout le monde était en train de briquer sa terrasse, de la réparer, ça s'agitait, ça s'animait partout. Et nos équipes sont passées pour dire voilà, on vous demande bien sûr de respecter et puis de faire respecter aussi les gestes barrières parce qu'il faut continuer évidemment à être très vigilant.
On va retenir quand même le caractère évidemment joyeux de cette réouverture, mais je vous donne une indication parce qu'elle sera à votre place demain à ce micro, Rachida Dati, qui dénonce votre précipitation, affirmant sur ces installations éphémères qu'il n'y a pas de cadre prévu, pas d'occupation du domaine ni de cadre esthétique. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
D'abord, c'est totalement faux. Et puis, elle s'oppose. Je pense qu'on peut être dans une opposition un peu plus responsable et réaliste. Et puis, surtout, arrêter de penser que la politique, c'est juste attaquer ses adversaires. La politique, c'est faire des choses pour que les gens vivent mieux. Et donc, ces terrasses, elles vont permettre quand même aux restaurants de s'en sortir, de vivre au mieux. Et je pense qu'il y a des moments, pour la polémique politicienne, et puis il y a des moments d'ailleurs qui doivent être assez courts, hein, ceux-là. Et puis surtout, notre boulot, c'est quand même de nous occuper des gens et d'améliorer leurs conditions de vie.
Il y a des moments de rassemblement, et ce mercredi justement, jour de rassemblement inédit, important pour les forces de l'ordre, des politiques seront présents, Anne Hidalgo, dont le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il a raison, Gérald Darmanin, d'être parmi eux pour mieux le soutenir, ces femmes et ces hommes policiers aujourd'hui ?
C'est une situation un peu étrange hein, pour un ministre de l'Intérieur, puisque c'est quand même, j'imagine, des choses qui lui sont adressées. Mais j'ai bien entendu aussi le message des syndicats de policiers qui ne veulent pas d'instrumentalisation politique.
Donc, il y a un risque. Parce que vous y serez également.
Oui, j'y serai avec les maires de mon équipe, de ma majorité. Oui, parce que je pense d'abord qu'il faut soutenir nos policiers parce que c'est eux qui nous permettent de vivre, de la façon la plus pacifique possible dans nos quartiers, que leur travail est très difficile, qu'ils ne sont pas suffisamment outillés. Je pense notamment, bien sûr, à la question de la lutte contre les trafics de drogue, qui est quand même ce qui mine notre société aujourd'hui. Donc je veux leur apporter mon soutien, tout comme d'ailleurs, pour moi, la création de la police municipale parisienne est aussi une façon de partir d'une réalité et d'apporter une solution pour plus de tranquillité. Je crois que nos concitoyens ont... D'abord, la sécurité, c'est ni de droite ni de gauche, c'est un droit.
Vraiment ? Mais quand, par exemple, Jean-Luc Mélenchon estime que c'est une manifestation revendicative, qu'il n'y sera pas ?
Vous comprenez cette position ? Il fait ce qu'il veut.
C'est quand même un leader, un représentant politique. Il fait ce qu'il veut, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Ce n'est pas celui qui incarne ma pensée, si vous voulez.
C'est la question que vous posez.
Sans aucune polémique de ma part. Mais non, je pense qu'il faut partir. Vous savez, moi, c'est ma méthode. C'est comme ça que j'ai envie aussi d'avancer. On part du réel, on part de ce que vivent les gens. Et on essaye d'améliorer. C'est ce qui, d'ailleurs, m'a conduit à Paris à pousser cette idée de police municipale, qui sera présentée d'ailleurs au mois de juin. J'espère qu'elle sera très très largement soutenue par les élus, parce que ça voudrait dire qu'ils ont compris aussi ce que nos concitoyens
nous disent. C'est important ce que vous dites, mais vous dites vous soutenez la police jusqu'où, Anne Hidalgo ? Est-ce que vous soutenez les revendications, parce que c'est cela dont il s'agit aujourd'hui, des forces de l'ordre, sur des peines plus sévères, voire des peines automatiques, planchées à l'égard de leurs agresseurs, des agresseurs de policiers ?
D'abord, bien sûr que quand on agresse l'autorité publique, il doit y avoir une condamnation extrêmement ferme.
Ce n'est pas le cas, souvent.
Pas toujours
parfois
le cas, et il y a sûrement à reprendre ce dialogue, évidemment, police-justice, qui n'est pas nouveau, hein, et qui est vraiment quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Je pense surtout qu'il faut plus de moyens, et qu'il faut aussi peut-être penser d'autres façons de faire sur les questions. Par exemple, à Paris, où on a été confronté aux questions de maintien de l'ordre, qui, notamment au moment des manifestations des Gilets jaunes, qui ont souvent dérapés, qui ont mobilisé des forces très 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 nombreuses de policiers, sans pour autant que l'efficacité des techniques de maintien de l'ordre ne soit au rendez-vous. Il y a des pays dans lesquels on fait de la désescalade, c'est-à-dire où les policiers, je pense à l'Allemagne, anticipent pour prévenir les violences dans les manifestations.
Mais comment anticiper ?
Il y a d'autres façons de faire.
Quand maintenant c'est récurrent, Anne Hidalgo, à chaque manifestation, il y a des casseurs, il y a des Black Blocs et autres qui s'en prennent, qui veulent, pardonnez-moi l'expression, mais c'est la réalité, casser du flic.
Oui, et casser tout court, et casser du flic. Et évidemment qu'il faut être très sérieux et très, non seulement dans la condamnation, mais en tous les cas très ferme.
Mais c'est important
par rapport
ce que vous dites. Alors, est-ce que vous reconnaissez que la réponse pénale est inadaptée aujourd'hui ? Est-ce que vous
reconnaissez que... Non, je ne dirais pas qu'elle est inadaptée.
Ce que disent
les policiers.
Je pense
aussi que... Oui, je ne vais pas... Je suis pas... Je me transforme
pas. Non, mais c'était ma question. Est-ce que vous les soutenez jusqu'à leur revendication totale ?
Je les soutiens, je suis pour évidemment trouver des solutions qui passent par plus de moyens, qui passent aussi par une formation, qui passent par un continuum avec les polices municipales, qui passent aussi par d'autres techniques. Lorsqu'elles ne sont pas efficaces, je pense notamment au maintien de l'ordre, on aurait plutôt intérêt à s'inspirer de ce qui se passe en Allemagne et dans d'autres pays. Et puis sur la lutte contre les trafics de drogue, là aussi, c'est une approche globale.
Bah, parlons-en, à Stalingrad.
À Stalingrad, qui
dans
est quand
le quartier,
même...
Oui, Stalingrad à Paris, je précise simplement. À nos auditeurs. Et pour répondre à l'exaspération, Anne Hidalgo, des riverains, des habitants, bien les toxicomanes sont déplacés un peu plus loin dans un parc. Est-ce qu'en déplaçant le problème, on le résout ?
Ce qui ne va pas, et évidemment que ça va soulager temporairement un quartier, mais ça va temporairement aussi venir perturber un autre quartier. Donc c'est une solution qui ne peut pas être
mais
durable.
Mais qu'est-ce qu'on fait ? Pourrissement depuis des années.
C'est ce que j'ai dit aux deux préfets. préfet de police et préfet de région et aux autorités sanitaires, en fait, on ne peut pas juste aborder les questions de trafic de drogue s'il n'y a pas aussi, en même temps, une politique de santé publique. Et cette politique de santé publique, je la réclame depuis des années, notamment sur Stalingrad, avant c'était à la porte de la chapelle.
Mais madame Anne Hidalgo, pour les habitants, pour les riverains, là, maintenant, ceux qui ne peuvent pas dormir, ceux qui ont peur pour leurs enfants quand ils sortent, qu'est-ce qu'on fait ?
Et ben, d'abord, ce que je veux leur dire, c'est que je ne me satisfais absolument pas de cette idée qui consisterait à dire on déplace le problème et puis on le fait tourner, parce que c'est ça la technique qui m'est proposée et qui ne me convient pas. Et je pense, en plus, on a affaire à un problème de drogue qui est lié au crack, avec des personnes vraiment qui, lorsqu'elles sont en manque ou consommatrices, d'abord, elles sont en danger pour elles-mêmes, mais aussi pour les autres.
Peuvent devenir aussi extrêmement violentes.
Vous savez, ils étaient précédemment à la porte de la chapelle. Je m'y suis rendue toutes les semaines avec les habitants pour les accompagner, régler, faire aussi ce qu'il faut auprès de la préfecture de police pour qu'on prenne ce sujet en considération. Mais là, maintenant, j'en appelle vraiment au gouvernement et notamment au ministre de la Santé et au Premier ministre, parce que c'est aussi une politique de santé publique
avec le risque
qui nous permettra
que les habitants
de régler ce problème-là.
Se passe même justice. Hein,
évidemment qu'il faut éviter ce genre de, qu'il faut éviter ce genre de situation d'exaspération que je comprends parfaitement, mais c'est au pouvoir public de le régler et ça fait des mois et des mois que je tends la main pour
qu'on le
règle.
Restons à Paris. Anne Hidalgo, le hashtag Ça cache Paris, qui dénonce notamment la saleté de certains endroits de la capitale, les travaux permanents, le mobilier urbain dégradé, le délabrement de certains lieux. Vous avez renvoyé ce mouvement à une opération orchestrée par l'extrême droite. Est-ce que vous êtes dans le déni ?
D'abord, si vous voulez, qu'il y ait eu derrière de l'instrumentation politique, je crois que ça n'aura échappé à personne. Qu'il y ait des problèmes de propreté dans Paris, évidemment, ça n'échappe non plus à personne et pas à la maire que je suis. Je le dis d'ailleurs à celles et ceux qui voient des situations dégradées autour d'eux. Il y a une façon plus simple et plus efficace de le signaler, c'est l'application Dans ma rue, qui permet une intervention directe de nos équipes pour aller ramasser ce qui aurait été dégradé.
Mais pourquoi avoir donné l'impression de ne pas écouter les plaintes des habitants de Paris
d'abord,
qui n'ont rien à voir avec l'extrême droite,
s'il vous
et
plaît,
souffrent de voir leur ville sans les dire.
Moi, vous savez, quand ce sont des mouvements qui se cachent derrière l'anonymat, bon, j'ai comme un vieux réflexe qui consiste à dire je préfère que les gens soient démasqués.
Voilà, je pense que des gens dans la rue vous interpellent
en
parfois
vrai.
En vous disant en Hidalgo,
oui,
regardez dans la rue,
réponds,
il y a des associations de riverains.
Et cela, je leur réponds et on agit. Et ceux qui nous interpellent aussi à travers le 3975 ou à travers notamment Dans ma rue, évidemment qu'on agit. Ceux qui restent masqués dans des mouvements qui sont souvent portés par de l'anonymat, c'est autre chose. Voilà. Mais il faut être sérieux et il faut trouver des solutions. D'ailleurs, je m'y suis engagée pendant les élections municipales. Mettre plus de moyens sur la propreté, ça c'est une
et
première chose.
Et confier aux maires.
Et déconcentrer.
Voilà. Mais avec des moyens,
bien
sinon
sûr.
Ce serait du cynisme de confier
bien
la propreté
sûr.
Sans moyens financiers.
Bien sûr, et je suis en train d'accomplir, d'entreprendre, et ça viendra en juin au Conseil de Paris, une grande déconcentration, un Big Bang de la proximité. C'est pas normal qu'un sujet de
on
papier
se
dans la rue
Big Bang, hein.
doive être
parfois,
géré.
Ça aboutit à rien.
Oui, mais moi je le prends parce que c'est vraiment un Big Bang pour Paris qui était quand même calé sur une organisation très centralisée comme l'État. J'ai décidé, puisque je prône la décentralisation, de me l'appliquer à moi-même et de l'appliquer à Paris. Et c'est dans la proximité qu'on gère ce type de problème. C'est pas la maire de Paris, depuis son bureau, qui peut effectivement piloter les équipes et les priorités en matière de
deux questions, si vous permettez, rapides. Est-ce que vous confirmez que le centre de la capitale sera interdit ou très limité pour les voitures dès 2022 avec une zone à trafic limité ?
Ça sera une zone de liberté pour les piétons.
Vous
pour
le voyez ainsi
les... Bien sûr que
et
je le vois
et de contraintes pour les automobilistes.
Oui, vous savez, je crois que
pensez à eux.
Ce sujet-là est vraiment plutôt derrière nous, heureusement, au sens où beaucoup de Parisiens, beaucoup de Franciliens, d'ailleurs avec la métropole du Grand Paris, on s'est engagé dans une zone à trafic limité. Vous voyez, ça ne concerne plus que Paris. Donc ça fait école pour une raison simple, c'est que la pollution était insupportable et que heureusement elle est en train de baisser, mais que bien sûr il faudra permettre à celles et ceux qui ont besoin de se déplacer en véhicule électrique, je pense aux riverains, je pense aux commerçants, je pense évidemment aux taxis et aux autobus, de pouvoir continuer à le faire.
Pensez aux automobilistes un peu, hein, ils existent, hein, c'est pas une espèce en voie de disparition.
Sur Paris, si vous voulez, on se déplace beaucoup moins en voiture que par d'autres formes, et c'est une très bonne chose. Et pensez aux automobilistes, oui, mais vous savez, on est quand même dans une ville qui a un réseau, une densité de transports en commun, qui est la solution. L'avenir, voilà, il faut être très clair, l'avenir dans des grandes métropoles comme les nôtres, ce n'est pas le déplacement individuel dans sa voiture, sauf pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Oui. Mais si ceux qui peuvent faire autrement font autrement, eh bien, la situation s'améliore pour tout le monde.
Merci.
Donc, ça sera un bel espace piétonnier pour beaucoup, beaucoup, d'ailleurs, qui est très soutenu par les riverains et les habitants.
Merci, Anne Hidalgo. Peut-être une question qu'on peut poser avec Mathieu, parce qu'on sait que vous êtes amateur, amatrice, je ne sais pas comment il faut le dire, de football. Ouais. Est-ce que le retour de Karim Benzema en équipe de France, c'est une bonne nouvelle?
Oui, c'est une très, très bonne nouvelle. Vraiment, je trouve d'abord que c'est un joueur d'un talent immense et je suis très, très heureuse qu'on puisse compter sur lui.
Et un amoureux de son pays qui chantera la Marseillaise, vous n'avez pas de doute.
Enfin, j'ai vu ce que disait l'extrême droite. Quand ils ont dit, en tous les cas, ils sont très présents. Et quand on les entend dire ce qu'ils ont dit sur Benzema, ça fait un peu peur. Hein, et on se dit, méfions-nous, hein, parce que derrière ce type de propos.
Mais il faut retenir Didier Deschamps aussi.
Didier Deschamps,
quand on a un objectif, on est capable de mettre ses différents de côté, Anne Hidalgo.
Absolument. C'est, oui, enfin, avec l'extrême droite, c'est plus compliqué.
Il y a un message. Merci Sonia Mabrouk.
Merci à vous. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci beaucoup.